America, we are endowed by our Creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. By honoring your sacred vocation of business, you impact your family, your friends, and your community. At Grand Canyon University, our MBA degree program is 100% online, with emphases in business analytics and finance to help you reach your goals. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.
Sixième tableau, chapitre 1er de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir par Georges Courteline. Sixième tableau, chapitre 1er. En apprenant que Chavarax sollicitait de lui une audience, M. Nègre, qui travaillait à un ballet pantomime pour l'inauguration du nouvel Alhambra, jeta des cris de nature à étourdir 25 sourds. « Non, non, qu'il s'en aille ! Il m'embête, M. Chavarax ! Je ne veux plus entendre parler de lui. Ce n'est pas possible, à la fin. Cet homme-là en veut à mes jours. » « Il dit, insinua l'huissier, que c'est pour une communication de la plus haute importance. » « De la plus haute importance, parfaitement. Je la connais, sa communication. Dites-lui que je suis avec le nonce du pape. » Il se croyait sauvé, trempé la plume dans l'encre. Hélas, il dut en rabattre, soudainement stupéfié à reconnaître Chavarax qui se glissait, le sourire sur les lèvres, entre le coude de l'huissier et le chambranle de la porte. S'entendant consigner l'entrée, l'employé avait passé outre et, trop fin pour laisser le temps de se produire à une rebuffade possible, il prenait le premier la parole, délibérément, en homme qui a le tort pas bien grave de se montrer un peu sans gêne avec une personne amie. « Je vous demande pardon. Un mot. » Le directeur eut une volonté de rébellion. « En vérité, Monsieur Chavarax... »« Mais Chavarax, un mot, un seul, c'est l'affaire d'une minute, pas plus. » « Veuillez vous retirer, maréchal. » Et maréchal se retira, et M. Nègre n'eut pas un geste pour le retenir, le stérile regret de sa faiblesse épanché dans un simple « Mon Dieu !» qu'il murmura à bouche close, tout en désignant de la main un siège libre à son interlocuteur. 100 fois déjà, il avait ainsi capitulé, sans coup férir, terrassé avant le corps à corps, sans force, devant un gaillard dont l'audace le déconcertait. Ça commençait et s'achevait de même, tout le temps. D'abord, le sursaut sur la chaise, les poings qui se closent, la bouche qui s'ouvre pour une clameur de révolte. C'était ensuite le trouble qui paralyse, le balbutiement qui défaille, le mutisme systématique où les gens de sang chaud, prudemment, enchaînent leur peur d'entredire, ficellent à l'instar d'une bête redoutable leur éloquence trop longtemps contenue et capable, une fois lâchée, des pires excès. Du reste, l'instant venait vite où, au sentiment de l'exaspération, succédait un sentiment tout différent, fait d'un bizarre composé de curiosité intéressée et de vague admiration. Monsieur Nègre était un de ces flâneurs instinctifs pour qui la vie est un boulevard fertile en attrayants spectacles. Il en descendait le cours, la cigarette aux lèvres, faisant indifféremment halte devant les beaux étalages ou devant les marchands de pâte à faire couper les rasoirs, indulgent à qui l'amusait, et étanchant sa soif du pittoresque à la première source venue. Certes, il haïssait Chavarax, il le haïssait de toute son âme. Seulement, il en goûtait l'étonnante mauvaise foi, le toupet extraordinaire, la facilité sans exemple à réclamer le paiement qui ne lui était point dû de sacrifices qu'il n'avait pas faits, de tâches qu'il n'avait pas remplies. Si le directeur en prenait les cheveux gris, le dilettante y trouvait son compte. Chavarax prit une chaise. En un mot commençant, voici, fit-il sans plus de préambule, le tondu vient de tuer M. de la Hourmerie et... Il n'en put dire davantage. M. Nègre avait eu la soudaine détente d'un train de derrière de grenouille mis en communication avec la bouteille de l'aide. « Vous dites ?» Le rédacteur ramena sa réponse à une pure constatation de fait. C'était sûr, prononça-t-il demi-souriant, les bras élargis d'évidence. Voilà 6 mois que j'attendais ça. Même. Il tira de sa poche une feuille de papier ministre qu'il développa avec soin et qui apparut noire de chiffres. En prévision de ce qui, fatalement, devait arriver un jour ou l'autre, je me suis livré à un petit travail qui n'est pas sans intérêt et que je vais avoir l'honneur de vous soumettre. Le voici. Si vous voulez bien, nous allons l'examiner ensemble. C'était un tableau comparé du personnel de la direction, où figuraient les employés, du plus gros jusqu'au plus humble, leurs noms relégués à l'extrême gauche, au-dessous de leur date d'entrée. 30 petites colonnes parallèles, inégalement semées de nombres entre leurs tracés d'encre rouge, détaillés, et cela depuis 30 ans, les mouvements d'argent opérés sur le budget du chapitre premier, le tout aboutissant à une marge assez vaste, enfermant les états de service de chacun en regard de l'avancement dont il avait bénéficié. C'était une limpidité de cristal. Oui. Ah, il en avait dû mettre des jours, des semaines, des mois à confectionner ce monument. Que de fiches culbutées les unes sur les autres en l'emprisonnement de leur boîte. Que de poudreux registres abattus grands ouverts et fiévreusement triturés à même le plancher des archives. Que de souvenirs un à un arrachés à la mémoire hésitante des vétérans des dons et lèvres. Quel terrain de discussion aussi! Dans le seul ton dont Chavarax, l'index pointé vers son papier, prononça « Les chiffres sont là !» tenait toute l'inanité des chicaneries de mauvaise foi. En vain M. Nègre, affolé, les reins fléchis sous le fardeau de sa responsabilité pesante, bégayait « Oui, oui, parfaitement, nous reparlerons de ça plus tard !» Procédons par ordre et avisons au plus pressé. Pardon, ah, pardon, permettez, insistait l'inexorable Chavarax. Ceux qui sont morts, n'est-ce pas? Eh bien, qu'ils nous laissent tranquilles. Le pressé, c'est le sort des vivants. La disparition de monsieur de la Hourmerie laisse 8 000 francs disponibles, ce qui n'est pas un liard, et permet de donner bien des satisfactions depuis longtemps attendues. Or, deux combinaisons se présentent. Ou l'augmentation pure et simple de tout le petit personnel, calculée sur 225 francs par tête, j'ai fait le compte, et 700 francs pour votre serviteur avec la place de sous-chef qui m'est acquise de ce jour. Le traitement minimum de sous-chef est de 4000 francs. Je suis à 3300, je réclame donc strictement ce qui m'est dû. Vous voyez que je ne suis pas féroce. Ou l'augmentation générale des gros aussi bien que des petits. 500 francs pour ceci, 800 francs pour cela, mesure en faveur de laquelle je n'hésite pas à me prononcer et dont l'application serait des plus faciles, ainsi que je vais avoir l'honneur de l'établir à vos yeux. Il avait avancé la main. Il prit un crayon qui traînait dans l'encombrement de la table et, sourd aux protestations de M. Nègre, criant qu'il avait à cette heure bien d'autres chiens à peigner et qu'on verrait clair le lendemain, il poursuivit. C'était un garçon ingénieux. Son sac contenait plus d'un tour. Il démontra, clair comme le jour, que si, au point de vue pratique, le décès de M. de la Hourmerie n'était qu'une porte entrebâillée, cette porte, on la pouvait ouvrir à deux battants en mettant à la retraite Bourdon, un infirme, que seul maintenait à son poste une charité mal ordonnée. D'où non plus 8 000 francs de disponibles, mais 16. Et ce n'est pas tout, notez bien. Et ce n'était pas tout, en effet, car à cette somme, déjà imposante, se venaient ajouter plusieurs autres milliers de francs. Les 4 000 balles du père Soupe, qui laissait sa peau dans l'affaire, les 1 800 francs de Gourgochon que renvoyait à ses chapeaux le programme de Chavarax, sans parler des 2 700 francs de Letondu, remplacés dès le lendemain par un sous-officier engagé aux appointements de 1 500 francs, et des 7 500 francs que l'on pouvait réaliser en ne faisant plus qu'un service du bureau des fondations et du bureau des hypothèques, dont on n'aurait qu'à faire nommer juge à Paris le chef, M. Varincouc, à titre de compensation. La combinaison, peu à peu, tournait au jeu de massacre. 10 morts restèrent sur le carreau en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Les survivants commencèrent bien par hériter de leurs souliers, mais à peine les eurent-ils chaussés que Chavarax les leur reprit. Quel homme! Il dit que Douzéphir, Gripothe, Guitare et plusieurs autres, ayant été compris dans le dernier mouvement, n'avaient pas à bénéficier d'une nouvelle augmentation, que le petit Médard et Lahrier ne pouvaient, eux non plus, prétendre à l'avancement, étant l'un un gamin et l'autre un amateur, que Van der Hogen, volontiers, troquerait son augmentation contre la croix de la Légion d'honneur, et Saint-Homme la sienne, avec enthousiasme, contre les palmes académiques. Chaque fois qu'il citait un nom, il le biffait violemment d'un trait de crayon qui s'abattait sur le papier comme un couperet sur une nuque. Et l'argent montait comme un flux, et cette maison, jusqu'alors plus aride que la coque chauve d'un œuf, se mettait à juter l'or par tous les pores. Et ahuri de noms, noyé de chiffres, pris de terreur respectueuse devant l'aisance de ce garçon à étrangler les gens au détour des chemins et à faire jaillir du granit des puits artéviens par douzaines, décidément, s'avouait à soi-même Monsieur Nègre, cet homme-là est trop fort pour moi. Une pudeur le retenait encore. Il arrêta au passage la phrase qui lui montait aux lèvres. C'est fait. Allez, je ne discute plus. Soyez sous-chef. Et fichez-moi la paix. Rien ne presse, hasarda-t-il. Laissez-moi le temps de souffler, de grâce. Vous n'êtes pas à un jour près. Mais il n'avait pas achevé que déjà l'autre était debout. Son visage exprimait la plus vive surprise. Ses yeux hagards, promenés de muraille en muraille, semblaient y chercher un clou pour accrocher leur détresse. Le temps de souffler. Soudain, la pièce s'emplit de cris. C'était Chavarax qui meuglait, rappelant ses états de service, le désintéressement dont il avait fait preuve, la longanimité qu'il avait déployée depuis le jour où sa foi ardente lui avait fait tout immoler sur les autels de la mère patrie. Tout, tout, un de ces mariages extraordinaires qu'on ne rencontre pas deux fois, une situation de 100 000 francs par an, la direction d'un journal réactionnaire qui est une des plus grosses affaires de Paris. À ces mots. C'est vrai. Oui, vous avez raison, hurla de douleur Monsieur Nègre. Votre arrêté de nomination sera ce soir à la signature, mais la paix, la paix, ah, la paix, je l'implore de votre charité, à genoux. Chavarax, lancé tête basse dans une édifiante étude de l'ingratitude des gouvernements envers les bons serviteurs, avait déjà trouvé le moyen de se comparer à Aristide. Il daigna se montrer généreux. Il épargna au directeur de se comparer maintenant à Christophe Colomb. C'est bien, fit-il froidement. Merci. Ah, ça ! S'écria Monsieur Nègre, qui avait cru chez le rédacteur à des transports de bruyante allégresse. Ça ne semble pas vous faire plaisir. Chavarax, sans conviction, répondit. Mon Dieu, si, tout de même. Comment tout de même ? Fit le directeur. Il ne comprenait plus. Chavarax s'expliqua. J'aime mieux cela que rien. Mais quoi, je suis sous-chef le jour où, justement, je devrais cesser de l'être et être élevé au grade au-dessus. Un soupir conclut pour lui. Enfin, j'accepte. En attendant, bien entendu. Et tandis que l'autre, abasourdi, abandonnant toute espérance de jamais conquérir son repos, songeait « ça va recommencer ». Le jeune homme gagna la sortie, arborant le sourire amer des résignés et révélant d'un faible haussement de l'épaule le fond de tristesse écœurée qu'il s'efforçait de dissimuler sous une apparente bonne grâce. Fin du chapitre 1er du 6e tableau. Sixième tableau, chapitre 2 de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir, par Georges Courteline. Sixième tableau, chapitre 2. L'enterrement de Monsieur de la Hourmerie eut lieu le surlendemain à l'église Saint-François-Xavier, aux frais de l'administration. Favorisée par un temps délicieux, la funèbre cérémonie ne laissa rien à désirer au point de vue de l'agrément. Derrière un char de troisième classe, portant à chacun de ses quatre angles une lourde couronne de rose thé, d'où pendaient de telles voiles de deuil qu'on en eût pu habiller Andromaque, marchait recueilli M. Nègre, directeur des dons et legs. Il était bien l'homme de la circonstance, avec sa belle figure grave, son vaste front découvert et son par-dessus mastic chevauchant, plus haut que le poignet, la manche de son habit noir. De lui ou du maître des cérémonies, on n'eût trop su déterminer lequel l'emportait en correction savante. L'un plus en cuisse, l'autre plus en épaule, ex aequo dans l'accablement, la façon de projeter à droite et à gauche le rapide coup d'œil qui ne voit pas, et de rouler, sous une chevelure disposée harmonieusement, de mélancoliques réflexions touchant le problème de l'au-delà et l'humaine fragilité. Seulement, une fois au cimetière, le directeur prit le dessus, car sa science était de dire comme personne des choses qui ne signifiaient rien. Il pratiquait une éloquence à ce point spécial et à lui qu'on en venait à se demander s'il ne s'en était pas assuré par brevet la propriété exclusive. Ça commençait comme la retraite d'infanterie par une espèce de roulement, une période d'au moins 2 minutes, ruisselante d'imprévus et de couleurs, qu'enjuponnait un flot de subtiles rhétoriques. Et de là-dessous, peu à peu, sortaient les petites incidentes qui montraient le bout de leur nez avant que de se finir librement trémoussées en ronflant comme des toupies autour de la mère gigogne leur maman. C'était gentil tout à fait. On aurait enterré son père rien que pour avoir le plaisir d'en nourrir l'oraison funèbre. Le défunt n'eut pas à se plaindre. Oh, il fut royalement traité, louangé comme un mort de grande marque. 20 minutes, on le couvrit de gloire, on exalta son tact exquis, le désintéressement de son zèle. Un moment vint où il n'eut plus à douter que le mort eût détruit Carthage et sauvé la chose publique, en sorte que les héritiers, au révélé chez leurs parents de tant de vertus insoupçonnées, se mirent à verser des larmes. Le tout se termina par des expansions et des échanges de poignées de main au bord de la fosse béante. La lèvre fleurie, à peine, de ce sourire qui fait le modeste, le directeur semblait un auteur dramatique après qu'ait tombé le rideau sur le triomphe éclatant de sa première. Que de reconnaissance, croyez, monsieur le directeur. Comment donc, messieurs ? Pas du tout, je n'ai dit que ce que je pensais. L'inhumation s'était faite au cimetière Montparnasse. La première pelletée de terre tomba sur le cercueil à l'instant où sonnait 2 heures à un couvent du voisinage. Devant la porte du cimetière, les ronds de cuir tinrent un grave conciliabule sur le point de savoir si, véritablement, il y avait nécessité d'aller achever au bureau une journée à demi entamée déjà. Saint-Homme, bien entendu, se prononça pour l'affirmative, mais il fut le seul de son avis. Le bureau se vit donc conspué à l'unanimité des suffrages moins un. Alors, quoi ? Il eut pour parler. Gripotte, maître en l'art délicat de faire se heurter 3 billes sur le vert tapis du billard, parla d'aller jouer la poule dans un café de la rue Vavin. Le sous-archiviste Alexandre, homme essentiellement poétique, proposa une excursion à Chaville ou à Viroflay, la gare étant à 2 pas. Cependant que Bourdon, chef du matériel, qui avait déjeuné d'une tasse de lait, se prononçait nettement pour le veau maringot, dont il magnifiait la sauce rose. Les uns tiraient à U, les autres à Dia, quand une solution mit tout le monde d'accord, vêtu de noir, le chapeau à la main, l'huissier maréchal, en effet, était venu se mêler au groupe. « Le directeur informe ces messieurs, dit-il, qu'il les recevra aujourd'hui à 3 heures précises dans son cabinet. » Ah, cette nouvelle surprit et inquiéta. Pour la même raison qu'un pavé se détache rarement d'un mur sans entraîner dans sa culbute une certaine quantité de plâtras, il est rare qu'un mouvement se produise par le fait d'une seule mutation. Nombre de ces messieurs, sans doute, sentirent la douce espérance étendre en eux ses germes bienfaisants. Mais Bourdon changea de couleur et cessa tout de suite d'avoir faim. Il avait compté sur la répartition banale du traitement de la Hourmerie, la combinaison numéro 1 de Chavarax, non sur le mouvement général que semblait faire présager l'empressement du directeur à réunir sa maisonnée. Tout le monde sur le pont, mauvais signe. Le préposé au matériel en eut l'âme visitée du noir pressentiment qui tourmente le noble Abner au premier acte d'Athalie, et ne douta plus que le personnel tout entier fût convié à un banquet monstre dont lui, Bourdon, de concert avec le défunt, serait appelé à faire les frais. Il eut l'impression que les tripes, le foie, la rate et le pancréas lui tombaient pêle-mêle dans le bas-ventre, si nettement, à ses oreilles, tonnèrent ces terribles paroles, admis à faire valoir ses droits à la retraite, que les tympans lui en vibrèrent comme ceux d'un homme qui a imprudemment passé devant la gueule d'une cloche en branle. Il cingla vers la rue Vaneau, sans aucune précipitation, de ce pas qui a bien le temps des suppliciés conduits à l'échafaud. 3 heures sonnèrent. L'huissier ouvrit à deux battants la haute porte aux cannelures d'or sur fond pâle qui isolait du salon d'attente le cabinet directorial et se rangea pour laisser le passage libre. Dépouillé de la tenue d'homme du monde arborée pour la solennité de l'enterrement, il portait à présent l'habit à longue basque ouvert sur l'empesé de la chemise et dressé, plus haut que son faux col, son profil imposant au noir favori de conseiller à la cour. Messieurs les dons et legs. Ces messieurs pénétrèrent, les chefs et sous-chefs d'abord, Bourdon le premier, en sa qualité de doyen. Monsieur Nègre attendait, le dos à la cheminée, les coudes chassés en arrière et reposés à même le marbre. Il accueillit son subalterne avec la grave salutation que comportait cette journée de deuil, lui tendit une main désolée, que Bourdon effleura respectueusement de la sienne, et répandit un vague regard sur le troupeau envahissant du personnel. Il dut attendre, pour parler, que le brouhaha des chaussures traînées par les lames du parquet se fût achevé d'éteindre. Après quoi, d'une voix pénétrée, il prit en ces termes la parole. « Messieurs, ce n'est pas la première fois que, courbant le front devant les arrêts de la mort, j'ai à déplorer en votre présence l'imprévu terrible de ces coups et ces férocités iniques. Le décès de l'homme de bien que fut durant tant d'années notre camarade de chaque jour, les circonstances tragiques qui l'ont accompagné et, mon humilité commande que je le confesse, l'égoïste regret du précieux auxiliaire qui m'est si brutalement ravi, me font accablante aujourd'hui. Une tâche toujours douloureuse. Au sentiment de détresse sans borne qui étreint à cette heure mon âme, je vois toute l'étendue du vide qui s'est produit. Oui, il semble que jamais encore je n'avais aussi nettement ressenti l'étroite union de la grande famille dont chacun de vous est un des membres, et à la tête de laquelle la confiance du chef de l'État m'a fait l'honneur de me placer. Vous pardonnerez donc, je l'espère, à l'émotion qui me suffoque. Je dirai plus. Certain que vous la partagez, je ne tenterai pas de m'y soustraire. » Un trémolo à l'orchestre eût fait merveille dans le paysage. L'orateur regretta quelque peu, in petto, l'absence de ce condiment, mais le ciel était avec lui. Comme il terminait sa période, un nuage glissa devant le soleil, et le jour s'obscurcit soudain. On vit alors à quel point il est vrai que les choses peuvent avoir des larmes. Une lueur de sépulcre entr'ouvert se mit à flotter par la pièce, baignant d'une recrudescence de tristesse la tristesse déjà incurable du meuble empire qui l'ornait. Le bureau d'acajou, couleur sans cahier, aux incrustations de cuivre, les dos en forme de lyre des chaises, l'urne plaintive que supportait le cube d'albâtre de la pendule. Le regard fixe des employés disait les efforts qu'ils mettaient à raveler les sanglots de circonstance, et il semblait que, de sa corniche, Solon, le dur Solon lui-même, prit sa part de désolation, avec son front lourd de soucis, labouré de rides profondes qu'emplissait un sombre amalgame de ténèbres et de poussière. Or, au milieu de l'accablement général, M. Nègre gardait un masque éploré et une âme parfaitement sereine, ayant eu le matin une petite entrevue avec le chef du cabinet, lequel l'avait rassuré. « Vous moquez-vous ? » lui avait demandé ce fonctionnaire. « Vous êtes un peu timbré, je pense, de vous fourrer martel en tête parce qu'un employé de chez vous a commis une extravagance sous le coup d'un transport au cerveau. Vous n'avez rien à voir là-dedans, et du reste, l'affaire ne fera aucun tapage. Si je l'étouffais dans l'œuf et ne faisais le nécessaire pour épargner, et à vous, qui êtes un gentil garçon, et au gouvernement, qui n'a pas besoin de ça, des complications superflues, vous me prendriez pour un dinde. » Une éloquente pression de doigts avait souligné ce discours. Un sourire l'avait ratifié. De là, pour l'intéressé, un soulagement d'autant plus vif que ses angoisses de la veille avaient été plus cuisantes. Et aussitôt, il avait arrêté son plan. Un plan de sybarite bon diable dont on a respecté le bien-être, qui en sait un gré infini au genre humain tout entier et désire l'inonder en signe de gratitude, de largesse, qu'ils ne lui coûteront rien. Incapable d'attenter à la propriété des autres dès l'instant qu'il voyait la sienne sauvegardée, il n'avait retenu que deux choses de la combinaison Chavarax. La possibilité de fusion de deux services en un seul, l'heureuse exploitation, au profit de tout le monde, de la vanité de deux crétins. Il poursuivit. « Mais quoi ? Conviendrait-il de s'éterniser en de vains et stériles regrets ? C'est, messieurs, ce que je ne crois pas. J'honorerais mal la mémoire de celui dont l'âme, à présent, flotte par les libres espaces, si, pliant sous le fait de ma douleur, je négligeais les intérêts d'une maison qui lui fut chère. La vie a ses exigences. Elle veut que la dépouille des morts concourt au bien-être des vivants. Je le déplore, bien que n'y pouvant rien. J'ai cru, dès lors, devoir précipiter les choses et ne point ajourner, pour des raisons de pur sentiment, une répartition de fonds dont le besoin depuis si longtemps s'imposait. Cette répartition, que je me suis efforcé de rendre aussi équitable que possible, je vais vous en donner connaissance. » Ici, le silence devint tel qu'on eût entendu un cloporte grimper au cadre de la glace. L'orateur vient à son bureau. Il y prit une feuille de papier qui s'y étalait au sein de multiples paperasses, l'éleva jusqu'à ses yeux et lut. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la proposition du conseiller d'État, directeur général des dons et legs, arrête. Article 1er. Monsieur Varincouc, chef de bureau à la direction des dons et legs, spécialement affecté au service des hypothèques, est nommé chef du bureau des legs en remplacement de M. de la Hourmerie, décédé. Le poste de la Hourmerie revenait de droit à Van der Hogen. Le sous-chef eut un sursaut et étouffa mal une exclamation, mais sous la moustache de M. Nègre, un demi-sourire se dessina d'une bienveillance rassurante. Je prie M. Van der Hogen de patienter un instant. Une disposition spéciale a été prise en sa faveur. Van der Hogen, confus, rentra en l'empesé de son faux col. Le directeur continua sa lecture. Article 2. Le bureau des hypothèques est rattaché au bureau des legs, qui prendra désormais cette dénomination, legs, hypothèques et main levée d'hypothèque. Article 3. Monsieur Chavarax, rédacteur à la direction générale des dons et legs, est nommé sous-chef adjoint aux appointements de 4000 francs. Article 4. Le personnel de la Direction Générale des Dons et Legs est, presque en sa totalité, l'objet d'une augmentation de traitement dont le détail sera donné d'autre part. Cette augmentation, continua M. Nègre après avoir laissé tomber d'une main son papier et de l'autre son monocle, ne saurait être en effet que partielle. Plusieurs d'entre vous, messieurs, ont atteint le maximum du traitement attribué à leurs fonctions par des règlements formels ou ont bénéficié d'augmentations récentes, ils n'ont donc qu'à espérer. Des temps luiront pour eux, meilleurs, proches peut-être, car la vie, en eûmes-nous jamais une preuve plus terriblement évidente, est fertile en inattendu. D'autres, qui ne sont point dans ce cas, se fient au bien fondé de leurs prétentions. Hélas, à plus d'un de ceux-là, je devrais aussi crier « Espoir !» Laissez la bonne volonté du camarade qui est en moi en appeler une fois de plus à la bonne volonté du camarade qui est en vous. Mais il convient que je m'attarde un instant au cas tout particulier de M. Van der Hogen. M. Van der Hogen, messieurs, compte parmi les doyens de cette maison dont il est depuis 25 ans... 26, rectifia de sa place le sous-chef Van der Hogen. Depuis 26 ans, veux-je dire, l'un des plus robustes soutiens. Une occasion se présentait de reconnaître ses services. Je la saisissais avec joie quand je me butais au veto inexorable de M. le garde des Sceaux, arguant contre notre collègue des titres mêmes qui le désignent à la faveur du haut personnel administratif. « Nul plus que moi, m'a-t-il objecté, ne sait avec quel zèle et quelle intelligence s'est acquitté M. Van der Hogen du labeur confié à ses soins. C'est bien ce qui fait que rien ne saurait me décider à les détacher l'un de l'autre. En pâtissent l'intérêt de M. Van der Hogen, l'intérêt public avant tout. Quel plus bel éloge, monsieur et cher collègue, eussé-je pu souhaiter de vos mérites? Je n'avais plus qu'à m'incliner, et je m'inclinais de bonne grâce, me bornant à exiger pour vous, à titre de compensation, la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Toute juste cause se gagne, monsieur, et je bénis la clémence du ciel puisqu'il m'est permis de goûter, au déclin d'une journée de tristesse, la douceur de saluer en vous le légionnaire de qui l'officiel de demain portera aux quatre coins de l'Europe le nom désormais illustre. » Un pourpre d'orgueil incendia la face monstrueusement inepte du légionnaire. Son allégresse s'épancha dans des balbutiements de gâteux.
Bah, vous, bébé, ne sais comment exprimer.
Il suffit, fit le directeur, qui eut la charité de dresser une digue devant ce débordement d'éloquence. Je transmettrai vos remerciements à monsieur le garde des Sceaux. Je n'ai plus qu'un mot à dire, messieurs. Il concerne le plus modeste, non le moins méritant, de vous. J'ai nommé monsieur Saint-Homme. Il est là, monsieur Saint-Homme ? L'expéditionnaire se montra, vers des mois, les poignets de sa chemise caparaçonnées de papier blanc.
Oui, monsieur le directeur.
Fort bien. Approchez-vous, je vous prie, car j'ai aussi à vous communiquer des nouvelles qui vous intéressent. Il y aurait superfétation de ma part, monsieur Saint-Homme, à venir rappeler ici de tels états de service que votre humilité, encore qu'excessive, n'a pu en obscurcir l'éclat. L'heure a enfin sonné pour moi de leur rendre publiquement hommage. Que dis-je, moi ? L'État, plutôt, la République que je représente et qui, avide de vous donner un gage, mais un gage magnifique de sa satisfaction, vous laisse le soin de vous décerner vous-même une récompense à votre goût. Une somme de 300 francs reste libre, et aussi un ruban violet d'officier d'académie qu'a mis à ma disposition monsieur le directeur des Beaux-Arts. Veuillez choisir. Sub judice lis est. Ma décision est aux ordres de la vôtre. C'est ainsi que discourut cet homme, comparable à nul autre en l'art de passer de la pommade, et une vision surgit dans les yeux de saint homme. Non la vision de son triste chez-soi, emplie des rugissements aigus du dernier né, des plaintes de la ménagère mêlées au bruit sec des béquilles butant contre des pieds de chaise, mais l'éblouissement d'une aurore, son apothéose glorieuse quand il irait promener son ruban par les petites rues de Grenelle, au milieu du murmure flatteur des gens qui font halte sur place et se demandent les uns aux autres
« Quel est donc cet homme distingué qui a les palmes académiques ?»
Il demeura muet. Simplement, entre son pouce et son index, il pinça le revers crasseux de son veston, tandis que, d'une œillade discrète, il signalait à M. Nègre sa boutonnière vierge de palme. Celui-ci comprit. Il sourit. L'arrêté sera signé ce soir. Mes compliments, mon cher collègue. L'audience était levée. Lentement, le personnel s'écoula, répandu à nouveau par le salon d'attente. Et c'est alors qu'il fallut voir Bourdon. Ce fut vraiment un beau spectacle. Rires sonores, énergiques shake hands, galopades de jeunes poulains à travers les épaisses luzernes du pâturage. Ah, mon cher, félicitations, compliments sincères, saint homme. Van der Hogen, la vieille amitié qui nous lie, permettez que je vous embrasse, hein. Messieurs, une journée mémorable. Ah, ça, il est saoul, se dit Lahrier, qui s'égayait de le voir faire. Il l'était en effet, le pauvre homme, et à tomber, grisé de l'alcool des joies trop brusques. La fièvre s'éveillait en lui, des gens qui l'ont échappé belle, et entrevoient des éternités de vie pour avoir coudoyé la mort d'un peu près. Et déjà, des projets d'avenir se formulaient, quasi précis, sous son crâne plus poli que l'ivoire. Des plans d'admirables réformes dont le besoin, on n'en doute pas, se faisait impérieusement sentir. Citons, réductions opérées en grand sur le papier, le pétrole, la ficelle, substitution de la turbocoque, reconnue procédé de chauffage ruineux, suppression de l'essuie-main accordé chaque semaine à chaque employé par la munificence administrative, du coup 75 francs de blanchissage par an, rayés des frais de la maison, toutes choses sagement pensées, faites pour alléger dans de notables proportions l'écrasant budget de l'État et graver le nom de Bourdon à jamais au livre d'or de la direction des dons et legs. Sans doute il n'en disait rien, mais nous, qui ne sommes point tenus à de pudiques réserves, nous proclamerons la vérité. Le décès de la Hourmerie, termite dévastateur, rongeur insatiable, cancer implacable et affreux, ouvert au flanc meurtri du service du matériel, ne laissait point que de lui être singulièrement agréable. Il en poussait des ouf discrets, pareillement un père de famille qui a enfin réussi à embarquer pour la Bolivie le fils prodigue de qui les honteuses débauches souillaient de fange ses cheveux blancs. Il répéta :
une belle journée.
Ah oui, belle journée en vérité. Il devenait indécent vraiment à célébrer ainsi une journée qu'il avait en partie occupée et à piétiner derrière un corbillard. Lahrier le lui fait observer. Ce n'est pas pour chiner, mais vrai, vous êtes gai le jour de l'enterrement. Alors Bourdon. Point du tout, plaisantez-vous, mon bon ami. La Hourmerie, vieux camarade, 28 ans ensemble, grand chagrin, très affecté au contraire. Le jeune homme s'étant mis à rire. Sérieusement, mon cher, je vous promets. Ah, ces jeunes gens, ça ne croit à rien. Où dînez-vous? Cette question surprit Lahrier. Ma foi, dit-il, je n'en sais rien, moi, où ça se trouvera? Dînons ensemble, en ce cas. Je vous invite. Vous voulez bien? Vous êtes trop aimable. Allons donc, mon cher, j'adore la jeunesse. Entendu, hein? Le salon s'était vidé. Seuls Gripotte, Gorgochon et le commis d'ordre guitare s'étaient attardés devant la fenêtre à causer de letondu qu'on venait de fourrer à Bicêtre avec la camisole de force. Bourdon, emballé de prodigalité, les convia, du coup, tous les trois, et ils acceptèrent, stupéfaits. Eh bien, en route, nous allons dîner à Montmartre. On tomba d'accord pour Montmartre. Lahrier y connaissait des endroits rigolos, la boîte de Derouet, entre autres, la crécelle, une façon de bouche concert située au pied de l'Élysée et où on achèverait la soirée en gaieté. Bourdon voulut tout ce qu'on proposa et la bande s'achemina tout doucement vers les quais, distingués dans les enfoncements de la rue Bellechasse, blancs, au-dessous des verdures poussiéreuses des Tuileries. Fin du chapitre 2 du sixième tableau. Sixième tableau, chapitre 3 de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public.
pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir, par Georges Courteline, 6e tableau, chapitre 3. Sur le seuil hermétiquement clos de la crécelle, une demi-douzaine de badauds stationnaient la tempe tendue, avec des profils recueillis que laissait deviner la flamme d'un bec de gaz planté au bord du trottoir. Et le fait est que les coups de gueule de Dérouet, ces coups de gueule dont la renommée amenait chaque soir sur Montmartre de longues bandes vadrouilleuses affluant là des quatre extrémités de Paris, transperçaient les épais queues de bouteille de la porte, enjambaient le trottoir, franchissaient la chaussée, s'en venaient expirer en appel lointain à l'oreille des voyageurs juchés sur le tramway de l'Étoile. « C'est ici, entrons !» dit Lahrier, qui s'ouvrait le passage à coups de coude. Ils entrèrent, et ce fut l'explosion soudaine d'une amorce de fulminate sous le talon qui la rencontre. Une telle clameur saluait leur apparition qu'ils en demeuraient suffoqués, se demandant s'ils n'allaient point fuir, échangeant l'anxieux coup d'œil de gens d'esprit rationnel tombés dans une maison de fous. Des voix hurlaient « Chapeau, chapeau !» D'autres proféraient on ne sait quoi, des choses qui ressemblaient à des menaces et qu'achevaient de rendre inquiétante un assourdissement de sifflets suraigus et de cris de jars en détresse. Et même temps, trois sous-officiers sonnaient éperdument au champ. Plus haut que le fouillis inextricable des têtes, car du même mouvement spontané ils s'étaient dressés sur leur banc, on voyait la tache claire de leurs longues capotes, leurs bras levés qui tenaient le sabre, leur vaste shako d'ordonnance où un pompon rouge fleurissait. Et ainsi, sous comme des ânes, ils braillaient en trois tons divers, ceci au grand émoi d'un pianiste à gages qui tentait pourtant de les soutenir et dont les accords insensés se mêlaient aux abois furieux de deux jeunes chiennes, secouant leurs queues en panache parmi les verreries du comptoir. « Eh bien, en voilà un bousin !» s'exclama le chef du matériel. « C'est inouï, une boîte pareille !»« Nom de Dieu, voulez-vous fermer la porte ?» lança le trombone de Dérouet. « Faut-il que j'aille vous mettre la tête dans un seau pour que vous vous décidiez ?» Le patron de la crécelle était debout sur une table qu'il venait de prendre d'assaut. En des lacs de bière répandus, les semelles de ses bottes baignaient, et de la main, une main blanche et grasse, aux ongles roses de petit marquis, il faisait tournoyer dans le vide un énorme gourdin de hêtre. Entre le col lâche de sa chemise et les ailes déployées de son feutre, sa belle tête de chouan résolu apparaissait toute bleue aux joues. Lahrier ouvrait la marche. « Avançons !» lui jeta à l'oreille Gripotte, qui venait derrière lui et commençait à avoir peur. « Ce gaillard-là serait capable de nous faire marcher à coups de trique. » « Vous en parlez à votre aise, » dit Lahrier. « Enfin, essayons toujours. Quelle cohue !» Ils firent un pas. Les cris de « Chapeau !» redoublaient. Ils durent, pour avoir la paix, toucher les bords de leur coiffure, ce qui détermina un « Ah !» de soulagement, éternisé en point d'orgue. Ils se hasardèrent alors, se faufilant entre les tables, entrant de biais dans l'encaquement compact des consommateurs. Dérouet criait « Place au miteux ! Serrez-vous donc un peu là-bas, vous n'êtes que 15 sur le banc !» Heureusement, un couple s'était levé, deux chaises libres. Ils s'en emparèrent en hâte et se les partagèrent fesse à fesse. Mais Bourdon s'étant plaint qu'il était trop serré, eut la joie de s'entendre huer bruyamment, tandis que Dérouet, dédaigneux, lançait à son garçon Maxime. « Maxime, vous me donnerez un galopin d'honneur au comte du gros lac Épème qui élève des réclamations. »« Boum !» fit Maxime. Intrigué, « Le gros lac Épème, c'est moi ?» demanda à Lahrier Bourdon. « Oui. Et pourquoi donc lac Épème ?» C'est de l'argot de boucher, ça veut dire paquet. Paquet ? Hélas, oui. Et puis un conseil en passant, inutile de regimber, ou alors garde les galopins. 21 sous le boc, je vous préviens. Fichtre ! Les ronds de cuir s'amusaient follement, riaient en silence à cet étroit coin de cabanon où tout, depuis la chemise écarlate du patron jusqu'au mirliton gigantesque que maintenait au plafond un fil imperceptible, semblait un retentissant défi éructé au nez du bon sens. Il le trouvait drôle, ce boui-bouillé. En somme, il y avait de ça. Le long des murs, dont les tapisseries en loques masquaient le plâtre entre leurs trous, des bassinoires et des plats à barbe couraient, mêlés à des guitares sans cordes, à des cadres sans toile, à des toiles sans cadre. Auprès d'un soleil fantaisiste, fait d'un pot de nuit à son centre et d'un inégal rayonnement de haches d'abordage et de chibouk tunisien, un grand portrait peint de Dérouet le montrait en soldat du 113e de ligne, riant, dégustant un quart de vin sur un fond clair de paysage. Il n'était pas jusqu'à un gros chérubin de cuivre qui ne pria dévotement, agenouillé sur le piano, les ailes au dos et les mains jointes. Et tout cela, aperçu parmi la houle des têtes, distingué à travers un paquet de fumée comme un fond de mer artificiel à travers la vitre bouillassée d'un aquarium souterrain, faisait naître en leur esprit l'idée d'un capharnaüm de bric-à-brac où on eût vendu de tout, même de la chair humaine. Ils achevèrent de s'épanouir lorsque Dérouet, les poings aux hanches, annonça qu'il allait chanter à Courcelles. Immédiatement, un silence imposant se fit. Il semblait, quand Dérouet chantait, que sa clientèle communia. À Courcelles était la dernière production de ce cabaretier poète. Coulé dans le même moule où, depuis quelques mois, il en avait coulé tant d'autres, elle avait déjà fait son chemin, émigré de l'autre côté de l'eau, jusqu'en les équivoques sous-sols des brasseries de la rue Monsieur-le-Prince. Aussi bien, ne le cédait-elle à ses aînés en saveur ni en pittoresque, écrite avec la même fougue, la même crapulerie voulue, non exempte d'art, qui avait fait le succès d'Ajavel, d'Acharonne, d'À la santé. « À Courcelles !» répéta Dérouet, le bâton plongé en la poche. « Et vous autres, tas de cochons, tâchez de brailler en mesure !» Des protestations s'élevèrent, il les releva comme il convenait. « Ferme vos gueules ! Silence aux personnes du faubourg ! Il y en a, ici, qui sont venus de Grenelle en carrosse, tout exprès pour se faire traiter de charogne. Regardez-moi plutôt, là-bas, l'ambassadrice de machin-chose, avec son michet et son mac. Va donc, vieille vache !» Ainsi parla ce philosophe qui, simplement, se résuma. « De la saloperie, tout ça. Donnez-moi le ton, monsieur Honoré, en fa dièse. » Monsieur Honoré préluda. Dérouet toussa pour se faire le creux, et commença, d'une voix dont il exagérait systématiquement les intonations naturellement canailles. À cause que je suis pas ben giron, et que j'ai les pattes comme un héron, on m'appelle bébé vermicelle à Courcelles, hurla l'assemblée avec un touchant unisson. Allons, c'est pas mal, il y a de l'ensemble, daigna déclarer Dérouet. Vous n'êtes pas si sous que vous en avez l'air. « Ouh !» hurla le cœur. L'acteur d'À Courcelles poursuivit. « L'été bâché dans les terrains, j'écoute les machins des trains, meugler des notes de violoncelle à Courcelles. » Il attaquait le troisième couplet. « Je réchauffe l'hiver mes pâturons, à la braise des marchands de marrons. » Quand un farceur de l'extérieur fit jouer le bec de canne de la porte et, par l'entrebâillement, jeta en plainte lugubre « Tonneaux, 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 avez-vous des tonneaux à vendre ?» Dérouet, impassible, continua. « Je dégèle mes doigts sous mon aisselle à Courcelles. » Je paie du froid cuit chez le tripier, que je boulotte sur des bouts de papier. On n'est pas fort sur la vaisselle à Courcelles. Quand mon grimpant n'a pas de bouton. Tonneau, 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 réitéra le braillard du dehors, en rouvrant d'un violent coup de poing la porte que Maxime tout à l'heure lui était venu repousser sur le nez. Dérouet, que laissait froid cette scie imbécile, n'eut même pas un haussement d'épaule. Il dit, simplement, avec le plus grand calme, « Il commence à nous embêter, le marchand de tonneaux. Je vais aller lui botter les fesses. On va voir si ça va traîner. » Puis, au milieu d'acclamations enthousiastes, saluant cette déclaration, il acheva, sans avoir perdu le ton ni la mesure, « Et qui tombe sur mes ripatons, je le rattache avec une ficelle. » À Courcelles. Il annonçait Moralité. Mais au même instant, le bâton haut, la nuque renversée en arrière dans l'attitude ensemble héroïque et canaille du maréchal Ney au carrefour de l'observatoire. « À nous, messieurs » cria-t-il. Toute une smala, chantant la pomponnette, entrait. Des hommes, des femmes, des filles du coucou, du cocardi, du tircule, enlevés tels quels et fourrés de force dans des fiacres, avec leurs tabliers et leurs sacoches de peluche. Elle riait encore à chaudes larmes des chatouillades de la route, et cette entrée à sensation déchaîna un retour de tempête. De nouveau, la maison s'emplit de rugissements, de nouveau un bond effaré amena de pair sur le comptoir les deux chiennes qui étaient reparties ronfler dessous. De nouveau, les sergents-majors, un peu plus ivres à eux seuls que tout le reste de l'assemblée, surgirent au-dessus de la foule, dardant des pointes nues de leurs sabres une constellation de vieilles assiettes adossées aux solives énormes du plafond et cuites à ce point par le gaz qu'on les eût pu croire vernies de caramel. Le monôme s'allongeait toujours. Le chef de file, un grand diable à barbe de fleuve que pénétrait l'importance de son rôle, finit par aller tamponner le mur de fond de son nez qu'un binocle d'écaille chevauchait. Il ne s'en émut pas. Il commanda « Patrouille !» et toute la bande, gravement, se mit à marquer le pas sur place, au rythme nettement arrêté de l'interminable pomponnette. « Pendant qu'il partira, que son voisin s'apprête, pendant qu'il s'apprêtera, chantons la pomponnette, la pomponnette, la pomponnette, il filera, ah que le bougre a bien filé !» À son voisin de recommencer! Le roulis des chapeaux balancé de droite à gauche battait une mesure régulière. En même temps, les poings serrés frappaient les cuisses et cela rendait à s'y méprendre le pas sonore des dragons attardés qui regagnent le quartier la nuit par les rues noires de la province. Déroué, lui, sur ce chapelet de tête qu'il dominait, déversait les bénédictions. Il disait: Vous, v'là, et salaud, tas de cochons, qu'est-ce que vous venez foutre ici? Quel sale monde! Regarde-moi ces gueules de miteux! Maxime, fourrez-moi tout ça à l'institut! Il désignait ainsi une façon de boyau situé en contre-haut de la salle principale et où s'en écoulait le trop-plein. On y tenait bien 8 en se serrant. Les miteux s'y logèrent à 15. Le reste se casa où il put, les femmes sur les genoux des hommes et les hommes au petit bonheur, au hasard des angles des tables et des bouts de bancs restés libres. Il en fut deux qui, faute de mieux, s'allèrent blottir sous le manteau d'une vaste cheminée Renaissance dont on avait enlevé les chenets. Alors, l'enthousiasme de Bourdon déborda, mais où il ne connut plus de limite, ce fut quand, dans le noir de la porte, ouverte sur la nuit du boulevard, eut apparu la tête effarée d'un cheval, maigre rose que venait d'enlever la bande au brancard de son sapin. Il en muge de joie. Il se dressa sur sa chaise pour mieux voir et posa sa semelle sur le bord de la table pour soutenir son équilibre. Son équilibre, fatalité. La table y laissa immédiatement le sien et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ce fut l'écroulement général et de la table et de la chaise et de Bourdon, le tout dans un charivari de verres cassés et de bouteilles culbutées, tombés pêle-mêle des hauteurs d'une étagère à laquelle le chef du matériel avait tenté de se retenir. Déroué criait « Bougre de fourdeau, qu'est-ce qu'il fout? V'là qui casse ma boutique maintenant! Il la paiera, il la paiera! Maxime, vous allez faire le compte, et s'il ne casque pas, les flics !» Boum! Il en avait pour 56 francs. Bourdon dut s'exécuter. Il le fit en galant homme, pensant d'ailleurs en soi « Je m'en fiche, l'enterrement était offré à l'administration, je compterai 2 voitures de deuil en plus. » Fin. Fin du chapitre 3 du 6e tableau. Fin de Messieurs les ronds de cuir de Georges Courteline.